Dimitri Meyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant à la SPGP, vous êtes spécialiste des valeurs liées aux ressources naturelles, hein, on va dans un fonds que vous gérez. On va parler avec vous de ce secteur dans un contexte où justement on a vu globalement les banques centrales agir pour que les taux restent bas, et on a vu encore ces jours-ci que les taux allaient rester bas pendant longtemps. Et on a vu des effets, hein, sur ce secteur. Comment ça s'est passé justement au cours des, on va dire, allez, des dernières semaines, des derniers mois sur ce secteur?
Alors, des derniers mois, effectivement, il y avait une grosse attente de la part du marché pour qu'il y ait une intervention nette et précise de la part des différentes banques centrales. On a eu tout début septembre une décision de la BCE d'intervenir via les OMT sur le marché. Et surtout, à la mi-septembre, on a eu une intervention de la Fed qui a décidé d'injecter massivement des capitaux dans le système financier. Et surtout, c'est là où c'est inédit, de façon potentiellement illimité dans le temps, avec une intention d'injecter des capitaux jusqu'à après la reprise aussi bien de l'emploi que de l'économie. Ça a été très bien accueilli par les différentes matières premières, en particulier par l'or, qui est très sensible à l'augmentation des masses monétaires.
Alors, en revanche, on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres phénomènes, hein, qui ont pu jouer, notamment ce qui se passe bien sûr sur l'économie. Le ralentissement économique a pu jouer en défaveur de ces matières premières.
Les matières premières, comme d'autres secteurs, mais en particulier les matières premières, sont vraiment prises entre deux grandes tendances. Une tendance de fond sur l'économie mondiale qui est plutôt pessimiste, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer dans le passé, avec les problèmes qu'on connaît en zone euro, des États-Unis qui sont en train de revenir lentement, mais qui ne sont pas sur des niveaux de croissance très importants, et la Chine qui, même s'il y a toujours une croissance qui pourrait faire envier les pays occidentaux, est quand même moins élevée que ce qu'elle avait. Et puis de l'autre côté, on a justement cette attente d'intervention de la part des autorités. On parle souvent de plan de relance. Donc là, c'est de la relance financière et c'est ce qui s'est passé au mois de septembre. Depuis d'ailleurs, il y a une certaine respiration sur le marché, mais la machine est lancée et on attend de voir ce qui va se passer concrètement maintenant.
Alors, quand on regarde, hein, les performances des différentes valeurs, on peut voir que dans un même secteur, si on prend le secteur pétrolier, des valeurs pétrolières ne font pas toutes la même chose. Il y en a qui clairement surperforment et puis d'autres qui, dans la période, ça paraît bizarre ou en tout cas pas forcément logique, mais ça veut dire vraiment qu'il faut aller choisir les valeurs qui vont, dans la période, performer.
Il y a un stock picking qui est important et aussi vous parlez du domaine du pétrole, mais dans le pétrole, il y a également le pétrole et le gaz. Donc tout dépend dans quel type de producteur vous allez intervenir. Et par exemple, les prix du gaz américain sont aujourd'hui sur des niveaux historiquement très faibles, même s'ils ont rebondi récemment, à tel point qu'ils sont 5 fois moins chers que le prix de l'énergie pétrole. Par contre, si vous regardez le gaz du reste du monde, il est sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc attention à savoir de quel pétrole, de quel gaz on parle à l'heure actuelle.
Oui, parce qu'effectivement, aux États-Unis, avec notamment les gaz de schiste, il y a eu un complet changement, on pourrait même dire, du secteur.
Exactement, il y a une révolution industrielle dans le domaine du gaz de schiste, dans une moindre mesure dans le domaine du pétrole de schiste aussi, mais les nouvelles technologies d'extraction du gaz de schiste ont permis aux États-Unis de redevenir les premiers producteurs au monde de gaz et donc d'avoir des prix de marché beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu connaître dans le reste du monde.
Côté, on parlait de l'or, côté des minières, il y a eu un peu un comportement, ou en tout cas des performances très diverses. Qu'est-ce qui se passe sur le secteur des sociétés minières, justement?
Alors sur les sociétés aurifères, il y a eu, je dirais, un petit peu des réflexes historiques des sociétés aurifères de vouloir continuer à faire de la croissance à tout prix. C'est vrai qu'on a les prix de l'or qui ont beaucoup monté, puisqu'on est bien parti pour faire une 12e année consécutive de hausse du prix de l'or, et qu'au début du mois, on a coté le plus haut historique en euros. Et donc il y a eu ce réflexe de vouloir faire de la croissance un petit peu à tout prix et peut-être un petit peu trop cher. À tel point que les cours de bourse de l'ensemble du secteur des sociétés aurifères ont sous-performé le métal jaune, à tel point qu'on était revenu sur des niveaux de valorisation historiquement très faibles, qui étaient même le plus bas historique, bien plus bas d'ailleurs que pendant la crise financière de 2008. Ce qui s'est passé cet été, c'est qu'il y a eu un changement de philosophie. Il y a eu un certain nombre de CEO qui ont été remplacés dans les grands producteurs aurifères pour non plus aller vers la croissance à tout prix, mais pour optimiser les coûts, optimiser les marges et donc profiter plus de la croissance du métal jaune.
On parle souvent, hein, pour ces matières premières, de cycle. Certains investisseurs disent finalement on a passé un cycle et on est sur un nouveau cycle, ce qui fait que ça sera peut-être plus dur pour ce secteur. Comment vous regardez cet aspect-là des choses?
Alors c'est vrai que les 10 dernières années, avec une croissance chinoise vers les 10%, semblent être derrière nous. Maintenant, on parle plutôt d'une nouvelle croissance chinoise qui devrait, dans la prochaine décennie, s'établir disons à 7,5, un petit peu moins pour les gens pessimistes, un petit peu plus pour les optimistes, mais voilà, on n'aura plus le niveau de 10% qu'on a eu pendant la dernière décennie. En revanche, ce nouveau niveau de croissance se fait sur donc une base plus élevée, puisqu'on vient d'avoir une décennie avec une croissance très forte, et donc la Chine aujourd'hui est un poids très important sur le marché mondial des commodities, puisque par exemple dans le domaine du cuivre ou d'autres métaux de base, la Chine représente 40% de la consommation mondiale. Donc la demande des pays émergents, Chine en tête, va continuer à être très importante, même si ce ne sera plus sur des pourcentages de croissance aussi forts que ce qu'on a pu avoir avant.
Avec effectivement 6-7%, mais un poids plus important par rapport aux autres acteurs. Par rapport aux États-Unis, par rapport
largement. La Chine, par exemple, est aujourd'hui l'acteur principal au niveau mondial sur la planète matières premières. En revanche, les actifs qui sont dans le sol, les mines ou les différents gisements, eux, ont commencé à être déplétés. Et les meilleurs actifs ont, et c'est assez logique, commencé à être produits. Et donc maintenant, on se retrouve plutôt avec des actifs avec des teneurs de moins en moins élevées qui nécessitent des coûts d'extraction plus importants et donc des prix de matières premières plus élevés.
Est-ce qu'il y a des valeurs que vous avez exclues, je dirais, de votre périmètre d'investissement ? Est-ce qu'il y a des arbitrages que vous avez pu faire qui vous paraissent importants ?
J'évite les valeurs qui sont liées justement au gaz nord-américain, pour les questions qu'on a pu évoquer tout à l'heure, ou également les matières premières qui sont dépendante de la Chine dans le sens où la Chine en est elle-même exportatrice. Je pense à l'aluminium qui est raffiné principalement en Chine ou encore à l'acier, voire au zinc ou encore au nickel. Je préfère me concentrer sur les matières premières où les pays émergents sont vraiment dépendants de l'extérieur, à savoir des matières premières comme le pétrole, comme le cuivre ou effectivement comme l'or.
Du côté des perspectives, on a plutôt, en tout cas dans les différents scénarios qui sont mis sur la table, perspective zone euro pas très favorable sur le début d'année 2013. Alors on nous dit qu'aux États-Unis ça va un peu mieux. On attend de voir si le fameux mur fiscal sera passé et comment. On dit que sur les pays émergents ça ralentit mais ça reste encore correct. Qu'est-ce que ça dit, je dirais, pour l'environnement des matières premières justement pour vous ?
Alors il y a un certain nombre d'incertitudes qui vont pouvoir se vérifier dans les prochains mois, au rang desquelles donc le fiscal cliff américain, qui va dépendre en partie des élections qu'on va avoir dans les prochains mois, sachant que si c'est le candidat républicain qui l'emporte, il y aura certainement plus de facilité avec un congrès républicain de ne pas avoir ce problème du fiscal cliff. On a également en Chine un changement de gouvernement qui va se produire au mois de novembre, et donc un renouveau dans le domaine politique. Encore une fois, je reviendrai à la Chine qui, au-delà des États-Unis, est surtout l'acteur prépondérant pour la planète matières premières. On a une amélioration au niveau de leur économie. On a pu voir quelques indices, notamment l'indice PMI industriel récemment qui est mieux qu'attendu par le marché. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'on va avoir une continuation de cette tendance qui redevient légèrement favorable, ou est-ce que le nouveau gouvernement, fort de son entrée au pouvoir, va devoir lui-même faire une sorte de quantitative easing à la chinoise pour relancer l'économie et donc relancer la consommation de matières premières.
Bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point, Dimitri Meyer. Je rappelle que vous êtes donc gérant chez SPGP.
Merci à vous.